Voilà, bonjour chers frères et sœurs, que Dieu soit béni pour sa grâce, sa fidélité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11 qui nous parle des héros de la foi, ce sera le dernier message sur cette série sur la foi. On a parlé pas mal de la foi ces derniers temps, toute une série de messages. Et je voulais terminer par un feu d'artifice avec les héros de la foi qui sont mentionnés dans Hébreux, chapitre 11. On a parlé à de nombreuses reprises de la foi, notamment la nourriture de la foi qui est la parole de Dieu, la prière de la foi. On a parlé de l'épreuve aussi, l'épreuve de la foi, notre foi qui est bien souvent éprouvée. Les conséquences de la foi, on a parlé des progrès, la nécessité de grandir dans la foi. Et puis la dernière semaine dernière, on a parlé des ennemis, différents ennemis de la foi, eh bien, on va partager quelques aspects d'Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er, quelques héros de la foi qui sont mentionnés ici. Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on prie un instant et qu'on demande à Dieu d'ouvrir notre cœur pour recevoir cette parole. Merci pour ta parole qui est toujours la vérité, qui nous enseigne sur la foi. Te prions, Seigneur, de nous rendre attentifs maintenant à ta parole, afin que nous recevions cette nourriture comme la parole de Dieu, comme cette parole qui sauve. Seigneur, ouvre encore nos yeux pour que nous puissions contempler ta gloire, ta puissance. Permets que nous soyons attentifs à ta voix encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, amen. Hébreux chapitre 11, un chapitre consacré aux héros de la foi. On en a lu quelques-uns pour poursuivre cette lecture extraordinaire, mais qui nous parle de quoi ? Qui nous parle d'hommes et de femmes comme vous et moi, simplement qui avaient une caractéristique, c'est qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu plus que dans les hommes. C'est la caractéristique des hommes et des femmes de foi que nous sommes encore aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont laissé derrière nous, c'est un exemple, afin que nous le mettions en pratique. Et maintenant, il va falloir que nous avancions par la foi, même dans l'obscurité, même quand la promesse tarde. Et si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle viendra, parce que notre Dieu est fidèle. Même quand la maladie vient frapper à la porte de notre corps pour nous dire « nous ne sommes que poussière, nous sommes mortels et un jour nous retournerons à la poussière », c'est vrai, mais notre âme, elle appartient déjà à Dieu. Et s'il vient nous reprendre aujourd'hui, « aujourd'hui, a dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis », il a dit au brigand qui mourait le jour même. Donc nous savons que notre âme, elle est entre de bonnes mains. Et même si notre corps est atteint, si nous sommes usés, comme c'était le cas de Sarah, on a vu, son corps était usé, eh bien, par la foi, nous nous attendons encore à la grâce de Dieu et à la manifestation de ses bénédictions. Abel, au verset 4, un premier exemple de foi qui fait une offrande. Alors, le titre qu'on peut donner à ce verset, c'est « L'offrande par la foi ». On connaît bien l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui était l'aîné dans la famille d'Adam et Ève, le premier-né. Et quand Ève a dit à Adam, « Chérie, je suis enceinte », Adam a dit « Alléluia ». Et Ève, elle a dit « Alléluia, aïe, 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 aïe », parce qu'elle pensait aux douleurs de l'enfantement. Et oui, à cause du péché, la douleur fait partie maintenant de notre existence. Et bien sûr, ce n'est pas sans souffrance, sans peine, que Caïn est venu au monde et elle a dit « parce que j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel », elle l'a appelé Caïn acquisition. Et puis Abel est venu, le deuxième, deux enfants qui sont nés dans cette famille. Ils ont entendu parler de Dieu dès leur enfance. Et nous bénissons le Seigneur pour tout le travail qui est fait auprès des enfants. Et nous, parents, nous avons une responsabilité d'éduquer nos enfants, de leur enseigner les voies de Dieu. Il faut le faire. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne qu'ils seront automatiquement chrétiens. Et on le voit pour Caïn et Abel, deux enfants qui sont nés dans une famille chrétienne. Ils ont eu la prière des parents. Ils ont eu l'enseignement que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Et en même temps, il y en a un qui a marché avec Dieu. Malheureusement, sa vie a été écourtée, Abel. Et il y en a un autre qui a choisi la voie du malin, Caïn, acquisition, possession, achat. Rien que son nom nous parle déjà d'un homme qui affectionne les choses de la terre. Et on ne peut pas aimer pleinement Dieu et aimer en même temps les choses de la terre. Il y a une forme de prise de position que nous devons faire vis-à-vis des choses du monde. La Bible dit « attachez-vous aux choses d'en haut ». Nous ne sommes pas des Caïn. Des Caïn qui aiment les choses de la terre, nous sommes des Abel. Abel, ça veut dire ce qui monte, ça veut dire souffle, ça veut dire aussi vapeur, mais ça veut dire ce qui aspire aux choses d'en haut. Et nous sommes, nous, de cette race-là, de la race des Abel, de ceux qui aspirent aux choses de Dieu. Si on regarde Caïn et Abel, honnêtement, au début, on pourrait dire qu'ils sont égaux. Ils ont la même éducation, ils ont reçu le même enseignement chrétien, croyant, disons, à l'époque, de Dieu existe. Ils ont reçu les mêmes bénédictions. Et cela, pourtant, va être différent pour l'un et pour l'autre. Quand on regarde Genèse, chapitre 4, on voit que les deux ont la volonté de plaire à Dieu, puisque c'est Caïn le premier qui décide de faire une offrande. Il a dit, moi je vais faire une offrande à l'Éternel. Et c'est bien de faire une offrande à l'Éternel. Est-ce qu'il a eu raison de faire une offrande à l'Éternel? Oui, il a bien fait. Et Dieu ne lui reproche pas ce fait-là. Il a fait une offrande à l'Éternel et c'est bien. Caïn, nous dit la parole de Dieu, était cultivateur ou laboureur. Alors il a offert les premiers fruits de son travail, ce qu'il avait planté, des légumes, toutes sortes de choses qu'il avait récoltées, et il a offert ça à Dieu. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'être laboureur? Non. C'est un bon métier, c'était un travail, il travaillait à la sueur de son front. Dieu ne lui reproche pas d'être laboureur. Ce qui manque dans le cœur de Caïn, et on va le voir parce qu'Abel est le côté positif maintenant, c'est qu'on ne voit pas dans son cœur la foi. On ne voit pas le désir d'adorer Dieu qui doit être au fond de notre cœur. Tandis qu'Abel, lui, qui était, il était berger. Berger, c'est très bien aussi. Et il n'y a aucun problème à être berger ou laboureur, ça aurait pu être l'inverse, pas de problème. Abel veut aussi offrir quelque chose à Dieu, c'est très bien, une offrande. Donc il a la volonté de plaire à Dieu. Mais en plus, il y a quelque chose dans son cœur qui ne se voit pas, mais que Dieu voit. C'est qu'Abel, il vient devant Dieu avec la foi dans son cœur. Tandis que Caïn, il vient devant Dieu pour gagner ses mérites, ses faveurs par ses offrandes. Ils ont la volonté d'offrir à Dieu, ils ont la volonté d'adorer Dieu, mais toute adoration n'est pas agréée de Dieu, frères et sœurs. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'adorer? Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, Seigneur, nous te glorifions. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus parle déjà d'une forme d'adoration qui n'est pas la gloire de Dieu, qui est une forme d'adoration à la manière de Caïn, une forme superficielle d'adoration où on dit « Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore », mais dans le cœur, il n'y a pas la foi et il n'y a pas la sincérité que Dieu veut trouver. Jésus parle à la femme samaritaine lorsqu'il est midi dans la ville de Sichar. Il trouve cette femme au bord d'un puits et il lui donne un enseignement concernant l'adoration, mais la véritable adoration. Il dit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs » ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs, mais il y a des vrais adorateurs qui adorent le Père, comment? En esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, voilà comment il faut adorer, frères et sœurs. Il faut, et ça c'est écrit comme cela pour montrer que ce n'est pas une possibilité parmi d'autres. Il n'y a pas trois manières, il n'y en a qu'une, c'est en esprit, en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, avec la foi, avec la sincérité de cœur, avec l'adoration qui monte de notre âme vers le Seigneur. Là, le Seigneur agrée cette adoration. Mais quand Dieu a vu l'adoration de Caïn, et qui pourtant, il voulait plaire à Dieu, il offrait quelque chose, et c'était un moyen pour lui d'adorer, la Bible dit, il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Ça veut dire qu'il y a des adorations qui montent vers Dieu, que Dieu n'agrée pas, parce que Dieu ne trouve pas dans le cœur de ces personnes qui sont comme Caïn, l'adoration. David écrit au psaume 141 « Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et une élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Voilà l'adoration agréable à Dieu. Comme un encens, c'est-à-dire un parfum de louange qui monte vers le trône de gloire. Mais toute adoration ne franchit pas le plafond de ce lieu, parce qu'elle doit être apportée avec un cœur sincère. Alors Caïn a utilisé des moyens humains pour s'approcher de Dieu, et peut-être on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il faisait à sa mesure, à sa portée, peut-être qu'il n'avait pas bien compris, mais en tout cas il est l'image et il représente ceux qui cherchent Dieu, mais par leurs efforts, par les religions, qui veulent plaire à Dieu par leurs œuvres, par leurs travaux. Mais Dieu n'a que faire de nos œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, dit l'Écriture, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut la foi. Bien sûr, les œuvres sont nécessaires parce qu'elles démontrent notre foi, mais c'est en aucun cas les œuvres qui peuvent plaire à Dieu sans la foi. Caïn montre sa bonne volonté. Il a le désir de bien faire. Il fait des œuvres. Et pourtant, la Bible dit, son offrande n'est pas agréée de Dieu. Ce qui montre que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, s'il n'y a pas la foi, si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, si nous ne croyons pas vraiment dans notre cœur, cela ne produira jamais de bons fruits. Même dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, il est dit que Caïn était du malin. Caïn était du malin et ses œuvres, donc, étaient mauvaises. On ne peut pas faire des œuvres bonnes si on n'est pas déjà sauvé. Les œuvres bonnes, comme la Bible les appelle, les œuvres justes, les œuvres du croyant, sont celles qui sont faites par la foi et dont on est déjà enfant de Dieu. Et ainsi, on fait des œuvres agréables à Dieu. Mais tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est encore du malin. Et tout ce que nous pouvons faire, y compris les religions que nous pouvons inventer, plus de 10 000 religions dans le monde, tout cela, finalement, n'est pas approuvé de Dieu. Par contre, Abel, il a trouvé le moyen de s'approcher de Dieu. C'est la foi. Voyez verset 1er de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ah, il a compris cela. Il a compris, Abel, en s'approchant de Dieu, « Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, Caïn, est-ce qu'il aurait pu croire lui aussi? Oui, il aurait pu croire lui aussi. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas cru? Eh bien, parce qu'il a mis en avant ses œuvres humaines, ses moyens humains, en disant, Dieu, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais te montrer. Mais cela n'a pas été agréé. Mais il aurait pu croire. Et la Bible dit, non seulement il y a la foi, alors je reviens au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice, donc il y a bien la foi, son sacrifice plus excellent, et là il est déclaré juste. Pourquoi son sacrifice est plus excellent? Parce qu'il va offrir un des premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire un agneau. Et on sait dans tout l'Ancien Testament l'importance que va revêtir le sacrifice sanglant des agneaux. Mais pourquoi est-ce qu'il a offert un agneau et pas un autre animal? Un animal, on pourrait penser à un cerf, on pourrait penser à n'importe quel animal, un lion, un éléphant, n'importe quel animal. Pourquoi un agneau? Eh bien, il a été conduit par l'Esprit. Et c'est là où j'insiste sur la nécessité d'avoir la foi quand on s'approche de Dieu. Parce que c'est dans la foi que son esprit s'est ouvert aux révélations divines et qu'il a été conduit à offrir, non pas n'importe quel animal, parce qu'il y avait tous les animaux possibles, mais il a été conduit à offrir un agneau. Et on sait que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais évidemment, Abel ne savait pas ces choses, mais par la foi, il a reçu la révélation et il a été conduit à offrir un agneau et non pas n'importe quel animal. Et ça va être l'agneau. À partir de Genèse 4, jusqu'à la venue de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ça va être par le sang des animaux et notamment de l'agneau que nos péchés sont pardonnés, que nous entrons en relation avec Dieu, ça va être par le sang. Comment est-ce qu'Abel a compris cela? Par une révélation, parce qu'il y avait la foi dans son cœur. Vous voyez, frères et sœurs, quand on a la foi dans notre cœur, on entre sur le terrain des révélations de Dieu. Et notre offrande est plus excellente. Elle est plus excellente. Elle plaît à Dieu, parce qu'il nous a montré comment adorer, il nous a montré comment le prier. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas lui plaire. Et nos offrandes, elles sonnent creux. C'est comme de l'airain qui résonne. Hein. Si on n'a pas l'amour, c'est comme de l'airain qui résonne, dit la Bible, mais c'est pareil pour la foi. Sans la foi, ça sonne creux. Donc, le sang de l'agneau, rappelez-vous qu'un petit peu avant, dans Genèse, à la fin du chapitre 3 de la Genèse, il est dit que Dieu avait revêtu de vêtements de peau Adam et Ève. Et d'où vient cette peau qui a recouvert Adam et Ève? Elle vient du sacrifice d'un animal. C'était le premier animal sacrifié, mais c'est Dieu qui l'a sacrifié et qui a donné les vêtements de peau. Mais peut-être que Abel a fait la relation entre les péchés couverts et le sacrifice d'un animal. Mais c'est par la foi. Et vous pouvez expliquer ça aujourd'hui à quelqu'un. Mais si nous n'avons pas la foi, comment voulez-vous comprendre ces choses-là? C'est spirituel. Ça vient d'en haut. Donc je termine avec Abel. La foi nous donne une plus grande compréhension du mystère de Dieu. Croyons, frères et sœurs, en nous approchant de Dieu pour lui être agréable. Je passe à Hénoc, le deuxième, donc c'est au verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Hénoc, de quoi nous parle-t-il? Bien sûr, toujours par la foi, mais il nous parle de l'enlèvement. Enlevé vers Dieu par la foi. Notez bien qu'Hénoc, sa vie a été relativement brève. Combien d'années a vécu Hénoc? Il a vécu 300 ans. Nous disons qu'elle est relativement brève par rapport à la durée moyenne de vie de l'époque. On sait que Methuselah a vécu jusqu'à 969 ans. Donc, vous comprenez, 300 ans par rapport à 969, ça fait un tiers à peu près. Donc, c'est relativement bref. Bien qu'aujourd'hui, on pourrait trouver que c'est très long. Mais la Bible dit surtout que pendant ces 300 ans, Hénoc marcha avec Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Hénoc marcha avec Dieu. Nous disons qu'il a marché par la foi. Eh bien, de quoi nous parle Hénoc? Il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et frères et sœurs, seuls ceux qui marchent avec Dieu et qui ont la foi seront enlevés à la rencontre de Jésus quand il reviendra. Pas tout le monde, mais c'est la foi. D'ailleurs, Jésus l'explique quand il dit « de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ». Ah, il y en a qui seront surpris. Ils pensaient parce qu'ils appartenaient à une congrégation qu'ils seraient enlevés. Non. Est-ce qu'il y a la foi dans le cœur? De deux femmes qui moudront la meule, peut-être qu'elles vont à la même église, mais l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur reviendra. Ce n'est pas notre appartenance religieuse qui fait de nous un chrétien. C'est la foi qui est au plus profond de notre cœur. Est-ce que nous avons la foi qui sauve ce matin? C'est ça que Jésus va chercher quand il revient, et c'est ça qui fait que, comme Hénoc, nous serons enlevés. Notre corps sera instantanément transformé pour devenir semblable à celui de Christ glorifié, et nous entrerons dans sa présence. Alors, ça se fera en un clin d'œil, dit la parole de Dieu. Ça sera rapide, comme l'éclair qui va de l'Orient à l'Occident. D'un seul coup, nous serons enlevés dans sa présence. Alors, est-ce que nous sommes prêts ce matin si le Seigneur revient aujourd'hui? Amen. Ou alors, est-ce qu'il faut mettre les choses en ordre? Ne tardons pas, parce que nous ne savons pas, frères et sœurs, quand le Seigneur reviendra. La Bible dit, vous ne savez pas, ne faisons pas de pronostics. Ce que nous savons, c'est que plus le temps passe, plus nous nous approchons du jour de son retour et plus nous devons être prêts. Que se passera-t-il pour ceux qui ne sont pas pris? Ceux qui ne seront pas pris, ils resteront donc en arrière. Qu'est-ce qui se passera pour eux? La Bible dit que la vie continuera sur la terre et qu'il va se lever parmi les hommes un antichrist, un homme qui aura par la puissance de Satan le pouvoir de faire des miracles. Alors, quelquefois on dit oui mais les miracles ça vient de Dieu. Dans la Bible vous verrez qu'il y a de nombreux miracles qui ne sont pas d'origine divine mais qui sont d'origine satanique. Et les miracles que produira Satan seront tellement extraordinaires que les gens attribueront cette puissance à Dieu. Et ils suivront cet homme comme le Messie, si j'ose dire, comme leur libérateur, comme le Sauveur. Mais ce n'est pas par la puissance de Dieu qu'il agira, c'est par la puissance des démons qui habitent en lui, parce que ça sera l'incarnation du mal lui-même. Il sera à ses côtés équipé de, deux autres personnes qui sont le faux prophète. Il y aura la bête, le faux prophète, Satan lui-même qui agira. Il y aura toute une activité démoniaque. Mais seuls ceux, mais à ce moment-là, qui n'accepteront pas la marque de la bête qui est mentionnée dans l'Apocalypse, mais qui passeront par la persécution et qui mourront à cause de cela, pourront éviter de tomber dans cette sorte d'adoration de l'Antichrist. Mais frères et sœurs, n'attendons pas ces moments ultimes, parce que nous ne savons pas ce qu'il adviendra de ceux qui passeront par la grande tribulation. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les portes de la grâce sont ouvertes pour quiconque croit en Jésus comme le Sauveur. Alors ne faisons pas de pronostics et ne disons pas « j'attendrai demain, j'attendrai de voir comment les événements vont tourner ». Aujourd'hui, si vous croyez dans votre cœur, si vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, aujourd'hui, vous avez votre passeport pour le ciel. Et quand Jésus revient, il voit la foi et hop, il vous enlève. Combien ce matin seront enlevés ? Hein ? Combien seront enlevés, oui. La plupart, j'espère. Mais peut-être il y en a qui ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas. Si vous ne savez pas si vous êtes sauvés ou pas, c'est que vous n'avez pas la foi qui sauve. Et donc vous ne serez pas enlevés. Mais vous pouvez croire. C'est comme Caïn, on disait tout à l'heure. Caïn, il pouvait croire. Rien ne lui empêchait de croire. Ouvrez votre cœur. Recevez Jésus dans votre existence. Vous aurez votre passeport pour le ciel. Et vous aurez un vêtement blanc. Un vêtement blanc, on chante parfois une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Un vêtement blanc qui nous est donné par Dieu pour nous laver de nos péchés. Frères et sœurs, nous avons le privilège d'être pardonnés de nos péchés. C'est une bénédiction. Et nous devons le réaliser chaque jour et louer Dieu pour sa grâce. Voilà, nous sommes comme Enoch. Nous marchons par la foi. Nous ne connaissons pas le nombre de nos jours. Peut-être certains 80 ans, 90, d'autres seront pris plus tôt. Nous ne savons pas. Mais Enoch a été enlevé dans la présence de Dieu et ça, nous savons que c'est l'avenir de tout croyant enfant de Dieu. Et si je crois ce matin, je sais qu'une place m'est réservée au ciel. Quelle bénédiction, quel privilège. Noé au verset 7, troisième héros de la foi, c'est par la foi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Le constructeur, je dirais le constructeur de l'impossible. Parce que Dieu lui demande un chantier naval, lui qui n'a jamais construit le moindre petit canot. Le voilà à construire un navire pouvant accueillir toutes sortes d'animaux, de bétail, de toutes sortes. Et ça va être quelque chose de tellement énorme. Et pourtant, Noé n'est pas qualifié, il ne sait pas faire ce genre de travaux, mais Dieu va l'aider. Mais quelquefois pour le monde, les chrétiens sont fous. Les chrétiens passent pour des fous parce qu'ils font des choses qui sont impossibles, en fait, humainement parlant. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, ils regardent vers l'invisible et ils s'attendent à Dieu. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, ils ouvrent l'oreille pour entendre, même dans le silence, la voix de Dieu leur parler. Mais ça, vous ne l'entendrez pas sur les ondes de radio, ni à la télévision, ni dans les journaux télévisés. Mais en ouvrant l'oreille spirituelle, vous entendrez la parole de Dieu. Ça, c'est les chrétiens. Et puis, les chrétiens, ils parlent par la foi. Jésus a dit, parlez aux montagnes. Dites à cette montagne, jette-toi de là, va dans la mer et la montagne obéira. Les chrétiens parlent par la foi. Alors, évidemment, quand on explique ces choses, on ne peut pas être compris. Mais Jésus a dit, mes disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. On n'est plus du monde, frères et sœurs. On est encore parmi le monde, mais nous avons déjà un pied dans la cité céleste, le ciel, où une place nous est réservée. Ah, béni soit Dieu, moi il me tarde d'être dans la cité céleste et de voir Jésus dans sa gloire. Déjà par la foi, nous pouvons avoir un avant-goût du ciel, un avant-goût du paradis, un avant-goût de la présence de sa présence déjà dans notre cœur. Eh bien, ça sera quelque chose de beaucoup plus fort encore. Dans le ciel, une fois qu'on sera délivré de ce corps mortel. Heureusement, pour Noé et sa famille, plus les animaux, que Dieu avait fait un plan. Parce que si on avait laissé Noé se débrouiller tout seul. Je ne sais pas comment cette affaire d'embarcation aurait terminé. Peut-être que ça aurait coulé. Mais comme Dieu a fait les plans, l'embarcation a tenu. Et Dieu nous donne la manière d'agir. Les plans de Dieu, c'est la parole que nous avons. Il a écrit tous les plans, tout ce que nous devons annoncer, comment nous devons vivre en tant que chrétiens, comment nous devons marcher par la foi. Qu'est-ce que la foi ? Il nous explique les plans. C'est à nous de les recevoir et de les appliquer. Il est dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et quand il est rentré dans l'arche, la Bible dit que pendant 7 jours, il avait terminé le travail, 7 jours encore, la porte de l'arche était ouverte. Et ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la grâce de Dieu. Parce que 7, c'est le jour, c'est le chiffre de la perfection. 7 jours, ça veut dire que la grâce de Dieu est là, elle est parfaite. Ça veut dire que les portes du salut sont encore ouvertes. Mais il est dit que le 7e jour, Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Et un jour viendra où Dieu dira maintenant, fermez les portes du ciel. Et à ce moment-là, le Seigneur revient. Et à ce moment-là, c'est la grande tribulation dont on a parlé tout à l'heure, et c'est la mort sur la terre. Donc seuls ceux qui seront enlevés auront accès à ce ciel-là. Mais quand Dieu dira, fermez les portes, personne qui peut taper à la porte de l'arche ne peut rentrer une fois que Dieu a fermé, c'est terminé. Ça veut dire que la grâce, le temps de la grâce se clôturera. L'arche de Dieu, on peut dire, c'est l'image de la croix, parce que quiconque croit en Jésus est sauvé de ses péchés, c'est encore vrai. Donc l'arche, quiconque rentrait dans l'arche était sauvé. Quiconque croit que Jésus est Seigneur est sauvé, aujourd'hui encore, parce que les portes de la grâce sont ouvertes. Mais le déluge, qu'est-ce que c'est ? Le déluge, c'est l'image du jugement qui vient sur le monde. Et quand le déluge est venu, les gens qui voulaient rentrer dans l'arche et qui suppliaient Noé, « Noé, ouvre-nous la porte, nous voulons rentrer dans l'arche. » Mais même Noé, s'il voulait, il ne pouvait pas ouvrir la porte de l'arche, parce que ce que Dieu a fermé, on ne peut plus le rouvrir. Et quand Dieu aura fermé les portes du ciel, même si tous les croyants prient, « Seigneur, ouvre les portes du ciel », quand Dieu aura décidé, c'est terminé, c'est terminé. Nous ne pourrons pas refaire le film, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le déluge vient, d'ailleurs, Jésus a comparé le déluge de Noé au temps de la fin. Les gens se mariaient leurs enfants, ils vivaient bonne vie, ils ne s'occupaient pas des choses de Dieu. Mais un jour, le déluge vint et les emporta tous. Mais c'était pendant ce temps-là que Dieu leur a prêté vie. C'était le temps de la grâce. C'était le temps où Noé, prédicateur de la justice, annonçait les merveilles de Dieu. C'était le temps du salut. Ils n'ont pas voulu, ils avaient d'autres occupations secondaires. Parce que qu'est-ce qui est le plus important sur cette terre ? C'est notre âme et notre relation avec Dieu. Tout le reste, c'est secondaire. On peut perdre des biens, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des gens de notre famille. Mais une fois qu'on a perdu l'âme, on n'a plus rien. Mais notre âme, elle vaut plus que tout l'argent, les possessions que nous avons. Notre âme, elle appartient à Dieu quand nous lui avons donné. Et c'est là qu'elle est en sécurité. Frères et sœurs, notre âme, nous l'avons donnée à Dieu. On peut dire que notre âme est en sécurité. « Je les garderai, dit Jésus. Aucune d'elles, aucune de mes brebis ne sera ravie de ma main. » Jésus veille sur nous, il est notre bon berger. Je termine avec Abraham au verset 8. Abraham qui nous montre l'exemple de la persévérance par la foi. Voyez au verset 8, la foi ne va pas sans l'obéissance. Il a reçu une vocation, donc il y a eu un appel de Dieu sur sa vie à quitter Ur en Chaldée, et il partit, c'est-à-dire il a obéi à l'ordre de Dieu de quitter le monde et ses plaisirs pour aller dans le pays que Dieu voulait. Ça nous parle d'obéissance. Et c'est une des caractéristiques que Dieu veut trouver dans notre cœur. Un des exemples de désobéissance qu'on trouve dans l'Écriture, c'est Saül qui pourtant avait été choisi de Dieu, qui a été roi, qui avait le privilège de pouvoir être le porte-parole de Dieu même, d'être conducteur du peuple de Dieu, mais il a péché par désobéissance, il a été rebelle à Dieu, et Dieu lui rappelle, mais l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices, même l'adoration. Parce que qu'est-ce que c'est que les sacrifices? C'est une forme d'adoration. Et quand on parle de sacrifice dans l'Ancien Testament, pour nous, ça équivaut à des sacrifices de louange, c'est-à-dire l'adoration de lèvres qui élèvent le Seigneur. Eh bien, Dieu dit dans sa parole que l'obéissance, il vaut mieux obéir à Dieu, ça porte devant lui-même plus que toute l'adoration qu'on peut faire monter vers Dieu, mais il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas le désir de plaire à Dieu, ça ne compte rien. L'obéissance associée à la foi, nous voyons combien cela va porter du fruit dans la vie d'Abraham qui a quitté Ur, qui a quitté le confort, parce que Jésus nous appelle à quitter le monde et le matérialisme pour vivre par la foi. Jésus a appelé les disciples à vivre par la foi, à suivre le Seigneur par la foi. Ils l'ont fait. Et Abraham a été conduit dans un pays meilleur. Parce que Dieu veut toujours le meilleur pour nous, frères et sœurs. Dieu est un Dieu bon, un Dieu fidèle. Il ne veut pas le désert. Parfois, il permet le désert. Mais regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils traînent 40 ans dans le désert. À cause de quoi ils sont restés 40 ans? La désobéissance, le manque de foi. Ils n'ont pas cru que Dieu allait les bénir. C'était un parcours de 15 jours. C'était un parcours de 15 jours pour aller au pays promis. Mais à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi, la désobéissance, ils ont erré dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Des fois, nous sommes dans des déserts, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est suite à notre désobéissance. Et Abraham a quitté par obéissance ce qui était le meilleur de l'époque, donc le confort, le luxe, les maisons en dur, pour vivre peut-être à vue humaine, de moindres conditions, il était sous des tentes, il n'avait plus les mêmes facilités, mais pour aller dans le pays que Dieu a promis, c'est-à-dire le meilleur pour notre vie. Et Abraham, s'il était resté à Ur en Chaldée, est-ce que vous croyez qu'il aurait été vraiment heureux à Ur en Chaldée, Abraham? Non. Parce que le plan de Dieu pour sa vie, c'était Canaan. On ne peut pas être heureux, même si on est dans une ville, même si on a tout le confort, même si on est la bénédiction financière et tout ce que vous voulez, si on n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas être fondamentalement en paix et heureux. Alors, il a choisi d'obéir et il a eu le meilleur, parce que lui, il attendait non pas une cité terrestre, la Bible dit dans ce texte, il attendait une cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, béni soit son nom, cette cité que personne ne peut détruire, que la rouille ne peut atteindre, qui est décrite dans l'Apocalypse avec une mer de verre, des rues en or, la cité céleste, la cité parfaite, où nous serons pour toujours. Sarah était incapable d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un problème pour Dieu? Non. Nous sommes incapables. Dieu nous rend capables. Il a rendu cette femme capable d'enfanter à l'âge de 90 ans. Alors les sœurs qui ont 90 ans, est-ce que ça vous intéresse? Dieu peut vous rendre capable de faire des choses extraordinaires. Les maris disent oui Seigneur, alléluia. Et oui. Elle a enfanté un fils à l'âge de 90 ans, Isaac, l'enfant de la promesse. Il y a peu qui auraient cru une chose pareille possible. Abraham lui-même a chancelé, Sarah a douté. Ils ont envoyé la servante Agar. Il y a eu Ismaël, il y a eu toutes sortes de tentatives. Ça n'était pas la volonté de Dieu. Mais on peut comprendre ces sentiments de doute, de crainte, parce que ça paraissait tellement impossible. Au verset 15, j'aime bien ce verset. S'ils avaient eu en vue cette cité terrestre d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais ils ne sont pas retournés en arrière. Frères et sœurs, les chrétiens qui marchent par la foi ne retournent pas en arrière. Ils vont toujours de l'avant pour le Seigneur. Nous sommes des chrétiens dans la foi. Nous ne sommes pas comme la femme de Lot. C'était une croyante. Elle a préféré regarder en arrière alors que l'ordre c'était aller de l'avant. Regardez pas en arrière, allez de l'avant. C'était presque un enfant de 5 ans, il aurait pu le faire. C'était facile. Et pourtant, elle a désobéi. Regarder en arrière, c'est la mort. Regarder en arrière, c'est être inopérant dans l'œuvre de Dieu. Jésus dit, si quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Il n'est pas propre au royaume de Dieu, il ne pourra rien faire dans mon œuvre. Verset 17, le sacrifice ultime, c'est Isaac. C'est peut-être le moment dans la vie d'Abraham où tout ce qu'il sait sur Dieu est en train de tomber par terre. Parce que le Dieu qu'il aime, et nous le savons aussi que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut le meilleur pour nous, c'est un Dieu de bonté. Ce Dieu qu'il connaît, qu'il suit, qui a fait le miracle, est en train de lui demander quelque chose qui est contraire à Dieu. Puisque ce Dieu de bonté d'amour lui dit, « Offre-moi, Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice. » Et là, dans son esprit, tout s'effondre, parce que sa foi était basée sur un Dieu bon, fidèle, et juste et droit. Et on sait tous que Dieu ne peut pas demander une chose pareille, d'offrir un enfant en sacrifice. Vous savez ce que ça veut dire, offrir en sacrifice? Ça veut dire l'égorger et répandre le sang. Quel parent ferait une chose pareille? Aucun, personne, c'est impossible. C'est quelque chose d'inimaginable que Dieu demande. Donc, Dieu demande le contraire de Dieu lui-même à Abraham, et Abraham rassemble le peu de foi qu'il peut mettre dans cette affaire et il y va. Et il y va. Avec sa foi certainement chancelante à ce moment-là, mais il va jusqu'à lier Isaac sur l'autel et jusqu'à prendre le couteau et, vous connaissez le récit, le lever, parce que lui, il était prêt à planter. Heureusement qu'il y a un ange de l'Éternel qui est apparu. Ne fais pas de mal à l'enfant. Mais si je regarde ce texte, qui n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, il est dit que Abraham croyait que Dieu était assez puissant, même pour ressusciter Isaac après l'avoir offert en sacrifice. Donc il était prêt, lui, à planter le couteau dans la gorge de son fils. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte dans quelle situation complexe Abraham se trouve? Et on souhaite à personne de se trouver dans une situation pareille, parce que c'est vraiment un dilemme, c'est vraiment impossible. Et il a été éprouvé jusqu'à la dernière seconde. C'est le sacrifice ultime. Offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Mais il croyait qu'il allait le retrouver par une résurrection. Et c'est une image, dit ce texte, c'est une préfiguration. Préfiguration de quoi? De Jésus. Jésus qui est monté sur l'autel, offrir sa vie en sacrifice. Jésus qui n'a pas été épargné, contrairement à Isaac, mais qui a été égorgé comme l'agneau de Dieu, sacrifié pour le monde, puisqu'il a eu les clous dans les mains, les clous dans les pieds, le côté percé, ruisselant de sang, ce sacrifice dont Isaac a été épargné, Jésus n'en a pas été épargné, afin que nous, nous soyons épargnés et que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on prie quelques instants. La liste des héros de la foi, elle continue. Vous pourrez lire les versets 23 et suivants. Elle continue dans tout l'Ancien Testament, elle continue dans le Nouveau Testament avec Pierre, avec Étienne, avec Paul, elle continue dans l'histoire de l'Église avec Saint Augustin, Martin Luther, John Wesley, Billy Graham et tous les évangélistes ou les croyants qui continuent à témoigner aujourd'hui. Certains ont laissé un nom dans l'histoire, mes frères et sœurs, l'important n'est pas tellement le nom que nous laissons ici-bas. Jésus dit, réjouissez-vous plutôt d'une chose. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, vous êtes perdu pour l'éternité. Et peut-être quelqu'un ce matin est perdu. Et il sait qu'il n'a pas Jésus dans son cœur. Eh bien, Jésus vous appelle. C'est le premier appel. Accepte Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus, si Jésus revient aujourd'hui, tu seras laissé en arrière. Et tu seras perdu pour l'éternité. Mais Dieu ne veut pas que tu sois perdu pour l'éternité. Et si quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme son sauveur, c'est peut-être la décision ce matin de dire « Oui Seigneur, je crois. Oui, je veux donner mon cœur au Seigneur ce matin. Oui, je veux donner ma vie à Jésus. » Ne résistez pas à l'appel de Dieu, parce que Dieu vous appelle à sortir de ce monde perdu, à entrer dans l'arche, à croire dans l'œuvre de la croix et à accepter Jésus. Et si c'est votre cas, Simplement, vous pouvez d'un geste le manifester en disant « Oui, moi Seigneur, j'aimerais tellement être sauvé. » Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce matin? Parce que c'est tellement important ces moments. Si c'est votre cas, faites-le simplement en disant « Oui, moi Seigneur, j'aimerais donner mon cœur ce matin à Jésus, j'aimerais donner ma vie. » Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu? Oui, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne? Gloire à Dieu, Dieu te bénisse. Une dernière personne? Oui, jeune homme, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, voilà. Que Dieu soit béni pour ses bien-aimés. C'est un moment précieux, c'est un moment glorieux. Merci Seigneur de parler à ses cœurs, tu vois ses manifestations, ce désir de te rencontrer, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Mais nous savons, toi Seigneur, que tu viens à leur secours, que tu es venu dans ce monde pour nous libérer des chaînes de Satan et nous accorder la vie en abondance. Béni Seigneur, c'est bien aimé pour cette décision aujourd'hui d'accepter Jésus, d'être une nouvelle créature et de vivre en toi, Seigneur, ces expériences nouvelles. On veut prier aussi les uns pour les autres parce que nous croyons que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il veut le faire pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on prie aussi pour vous. Si vous avez besoin de la prière, vous connaissez déjà Jésus comme votre sauveur, mais vous avez besoin de la prière pour votre vie, pour votre âme, pour votre corps, eh bien on va prier, on va demander à Dieu sa grâce.